Carnet de région.
L'actualité des radios associatives locales en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée.
Bonjour et bienvenue, voici un tout nouveau carnet de région, l'actualité de la semaine en Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, proposé par vos radios associatives en région. Au sommaire de cette édition, une alerte écrite dans une tribune d'un grand quotidien de France. Nous entendrons le professeur à l'origine de cette tribune, professeur des écoles et élu à l'ODEV, à l'origine de cet article face à cette nouvelle loi dite école de confiance du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Sujet de nos confrères de Radio Lodève. Mercredi 13 mars dernier était signée une convention de partenariat dite projet social territorialisé. De quoi on parle, sujet de Radio Escapade. Nous dresserons également le bilan dans ce carnet de région et les nouveaux objectifs de la brigade propreté incivilité, la BPI comme on l'appelle, à Montpellier, lancée il y a près d'un an, sujet de Radio Aviva. Le quatrième salon de la nutrition, cela se passe en ce moment à Montpellier. Nous entendrons ce sujet réalisé par François Charbonnel pour RCF Maglonero. Et puis en toute fin de magazine, Neymar, et oui, ce fameux footballeur qui s'affiche depuis quelques semaines avec sa toute une nouvelle bague d'anniversaire en or, blanc et de diamants conçue par une entreprise Héroltès. Ça se fait basée à Gijan. Rencontre avec ses cofondateurs au micro de Radio Pays d'Hérault. C'est le carnet de région, les temps forts de l'actualité de la semaine en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Le 11 mars dernier, Sébastien Rome, professeur des écoles et élu à l'ODEV, lançait une alerte à travers une tribune dans le journal Le Monde sur la loi dite des écoles, dite de confiance du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Sébastien Rome nous explique pourquoi.
Il y a un point précis sur lequel on a focalisé avec Civiplan notre attention et sur lequel on a voulu focaliser l'attention de la population, des maires et des sénateurs qui vont examiner prochainement la loi. C'est l'article, soyons très techniques, l'article 6 Carter, qui en fait crée de nouveaux établissements dans l'éducation nationale, les établissements de savoirs fondamentaux, qui ont comme principe de fusionner les écoles de tout un bassin, écoles maternelles et élémentaires, avec le collège. Tout le monde dans un grand ensemble qui serait avec de nouvelles attributions et les directeurs d'école et directrices d'école des écoles maternelles et élémentaires disparaissent. Le problème principal, il est pour les parents d'élèves et pour les communes. Parce que quand on amène son enfant à l'école et qu'on a une question, un petit souci, voilà, on a besoin d'avoir quelqu'un qui représente l'autorité de l'État, celle de la République. Et donc c'est l'interlocuteur naturel de proximité pour les parents. Eh bien, lorsque on fusionne dans ce grand ensemble, le directeur, il n'est pas totalement supprimé puisqu'en fait il va être nommé dans le collège. Eh bien, il faudra aller dans le collège pour prendre rendez-vous avec un directeur qui sera sur X écoles qui auront fusionné. Voilà, donc on supprime le service public de proximité de l'éducation nationale. Le directeur est vraiment la personne multitâche. Alors, effectivement, ça pose tout un tas de soucis et il y a certainement des réformes à faire pour améliorer les conditions de travail pour les parents, notamment du service que peut rendre les directeurs. Le directeur d'école, il a à sa charge de coordonner l'ensemble de l'action pédagogique au sein de l'école. Il la coordonne avec les enseignants sur le projet pédagogique, il la coordonne avec les élèves et les parents d'élèves et avec la commune. Voilà, il fait le lien, il fait le nœud, il doit faire le nœud entre tous ces liens qui convergent vers l'école.
À noter que cette loi sera examinée dans les prochaines semaines par les sénateurs qui peuvent encore l'invalider. Mercredi 13 mars dernier était célébré à Sauve la signature d'une convention de partenariat entre la communauté de communes Piémont-Sévenol, la caisse d'allocation familiale, la mutualité sociale agricole et différents syndicats et syndicats intercommunaux locaux appelés projet social territorialisé ou PST. Ce type de convention est une première en Languedoc et la deuxième à l'échelle nationale. Mais laissons la parole à Fabien Cruseillet qui a porté et présidé cette rencontre. Il nous explique les tenants et les aboutissants de ce dispositif qui vise aujourd'hui à améliorer et à coordonner les différentes actions envers la population. Nous l'écoutons.
On va passer donc à la signature officielle. Donc chers collègues, on va se lever pour faire cette signature et puis si vous voulez bien faire la photo. C'est une convention de partenariat entre la CAF, la MSA du Languedoc, la communauté de communes du Piémont-Sévenol et les CIRP du territoire. Ça s'appelle un projet social territorialisé qui va se décliner en une vingtaine d'actions opérationnelles au service des familles et du bien-vivre en Piémont-Sévenol. Parmi ces actions, on peut citer par exemple le projet éducatif territorialisé, qui est un travail en partenariat avec donc, les CIRP et qui va avoir une approche un peu globale des temps de l'enfant et des parents. Il y aura une certaine lisibilité, une cohérence, une continuité pour les familles qui comprendront plus facilement comment les temps de l'enfant s'organisent, que ce soit au niveau de l'école, du périscolaire, des centres de loisirs, etc., etc. Et même les activités sportives et culturelles seront présentées avec une plus grande lisibilité et une plus grande cohérence aux habitants de ce territoire. Une autre action que je peux vous citer, et puis je laisserai la parole à mes collègues, c'est un conseil local de prévention de la délinquance, par exemple. Où là, on va essayer de mettre autour de la table les mairies, la préfecture, la gendarmerie, les bailleurs sociaux, etc. Et puis une conférence sur le logement, où là, on va essayer de sensibiliser, pareil, tous les habitants du territoire aux enjeux en lien avec le mal-logement et toutes les aides, notamment par rapport à la transition énergétique, qui peuvent faire en sorte qu'on habite dans un habitat décent. Effectivement, le territoire est déjà bien maillé en matière de services publics, que ce soit les crèches, bon, les écoles, les temps périscolaires, etc. Là, c'est leur donner une cohérence et une lisibilité. Et on se dit que sur un territoire comme le nôtre, le développement durable passe par des services publics de proximité, par de la culture, par du sport, par de l'éducatif, par du périscolaire. Et l'idée, c'est aussi de ne laisser personne sur le bord du chemin et de rendre cela accessible au plus grand nombre. La convention, c'est un lien avec la CAF du Gard, qui est un partenaire historique de nos actions en direction de la jeunesse et de la petite enfance. Et puis la MSA s'est inscrite au titre d'une charte avec les familles et vient en appui financier et logistique pour aller encore plus loin dans cette démarche.
Bonjour à tous, donc Carole Clément, MSA du Languedoc. Nous avons le bonheur de signer un PST, un projet social territorial, avec la CAF, de façon à agir encore en meilleure synergie, parce que nous avons identifié le territoire du Piémont-Sévenol comme un territoire prioritaire, et donc nous souhaitons mettre en œuvre nos actions de développement social local sur ce territoire. Donc MSA, nous finançons des prestations individuelles au titre des actions, des prestations légales comme la CAF, et nous avons aussi des prestations extra-légales et des actions collectives donc qui vont pouvoir être mises en œuvre de façon plus particulière sur ce territoire à partir des besoins qui auront été identifiés et remontés à travers les groupes de travail et les enquêtes de satisfaction, les enquêtes que nous allons mener auprès des familles. Ou simplement rajouter voilà, que les jeunes, effectivement, sont des citoyens en devenir et on a à cœur de développer les services sur les territoires qui en manquent, qui sont en déficit aujourd'hui, parce que c'est important pour ces citoyens en devenir que nous financions des services qui sont parfois en partance.
S'appliquant donc à tous les domaines de la vie sociale, voire culturelle et même économique, parions que cette belle initiative sera très prochainement à nouveau à l'honneur dans ce carnet de région et qui sait qu'elle fera peut-être des émules. Toujours la semaine dernière, le 12 mars dernier précisément, la ville de Montpellier tirait un premier bilan de la brigade propreté incivilité, la BPI comme on l'appelle, lancée il y a près d'un an. À cette occasion, elle a présenté le nouveau dispositif mis en place pour sensibiliser les Montpelliérains à la lutte pour la propreté et contre les incivilités urbaine que l'on appelle scène d'incivilité. La brigade Propreté Incivilité travaille au quotidien avec les Montpelliérains et Montpelliéraines pour lutter contre les incivilités via des actions de prévention, de sensibilisation, de médiation et afin de maintenir la ville propre. La journaliste Liliane Drey a rencontré Valérie Bartas-Orsal, qui est vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole et déléguée à la propreté et à la valorisation des déchets. Elle nous explique entre autres l'intérêt et les règles d'une ville propre et le respect du code de la rue.
L'état de propreté, si vous voulez, s'améliore. C'était une promesse de Philippe Sorel en 2014. C'est un problème, une problématique que nous avons pris à bras le corps. Nous avons mis en place énormément d'actions. Nous travaillons de concert avec les services du quotidien de Monsieur Albert, les services de sécurité de Madame Acquier, les services commerciaux de Madame Roussel Galliana. Nous nous réunissons à peu près une fois tous les mois. Nous identifions toutes les problématiques de l'espace public de la ville de Montpellier qui concernent essentiellement la propreté et nous mettons en place une dynamique, nous mettons en place des solutions pour améliorer cet état de propreté. Alors nous avons par exemple rencontré les commerçants, nous tenons absolument à ce que les restaurateurs et les bars mettent sur les tables de leur terrasse des cendriers parce que c'est très important. Montpellier est une ville touristique qui accueille énormément de touristes qui viennent du monde entier, de la France bien sûr, et si cette ville est propre, elle fonctionnera encore mieux. Et chaque habitant de la ville de Montpellier est heureux lorsqu'il sort dans une ville où l'espace public est agréable, apaisant, rangé, ordonné, propre et sécurisé. Donc tous ensemble, nous avons décidé de lancer une nouvelle campagne qui est une campagne de sensibilisation. Et cette campagne de sensibilisation consiste à identifier des points noirs liés aux encombrants ou à la sortie de carton en dehors des heures autorisées ou au fait qu'on sorte les poubelles en dehors des heures et qu'on les dépose sur l'espace public ou contre des conteneurs enterrés sans les entrer à l'intérieur. Et nous allons y poser des autocollants, donc on les voit bien, ils sont forts, ils sont puissants. Nous allons montrer aux gens en fait que sortir ses poubelles, ne pas respecter le code de la rue, ne pas respecter le code de propreté de la ville, c'est risquer une contravention de 68 euros. La propreté à Montpellier, par exemple, ça nous coûte 19,4 millions par an. Il faut savoir que c'est vraiment un coût qui est très, très important. Nous avons 120 cantonniers qui sont dédiés à l'entretien de l'espace public. Et ensuite, nous avons 10 règles. Donc, la première des règles, entre autres, parle des encombrants. Elle rappelle aux gens que pour connaître les jours et les heures de collecte dans la rue, ils peuvent aller sur le site de la métropole, ils peuvent téléphoner au numéro vert et que s'ils déposent leur encombrant n'importe quand et n'importe où, ce sera 68 euros. Voilà, donc ce code de la rue traite des petits déchets dans les corbeilles de rue que Luc Albert installe, des mégots qui doivent être jetés, qui ne doivent pas être jetés dans la rue, mais dans les corbeilles à papier, dans les cendriers qui sont sur les corbeilles à papier, etc.
Suite du carnet de région, l'actualité en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Les étudiants de l'école de diététique et de nutrition humaine de Montpellier organisent cette semaine le salon de la nutrition, un projet de fin d'études qui a pour but de sensibiliser tous les publics, des enfants jusqu'aux adultes. Les explications de Pauline Cianfarani et de Charlène Badido, tous deux étudiantes de cette école de Montpellier.
Le salon de la nutrition, donc, c'est un salon, comme son nom l'indique, qui porte sur la nutrition, mais pas que. En fait, notre but, c'est vraiment de favoriser donc une prise de conscience autour de l'alimentation, de la nutrition, mais aussi de la santé et de l'activité physique. Et c'est un peu voilà, tous ces thèmes que l'on va retrouver donc, dans notre école à l'EDNH, au 13 rue du Carré du Roi.
Une prise de conscience, mais une prise de conscience de quoi? Que la nutrition, finalement, c'est important pour aller bien?
Tout à fait, la nutrition, c'est important pour aller bien. À tout âge, en fait, c'est vraiment pour favoriser cette prise de conscience, mais pas uniquement quand on est adulte, ça commence dès le plus jeune âge. Donc, on va vraiment, en fait, animer des ateliers pour tout le monde, aussi bien pour toucher donc, les enfants comme les adolescents, comme les jeunes adultes, les seniors. C'est vraiment à tout âge pour donner, en fait, aux gens des clés, finalement, pour qu'ils puissent, dans leur vie, au quotidien, avoir donc de nouveaux réflexes ou de nouvelles habitudes qui peuvent voilà, les amener à avoir une meilleure santé ou en tout cas à continuer à avoir de bons réflexes pour avoir une bonne santé.
Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce salon? Est-ce qu'on va retrouver des stands? Est-ce qu'on va retrouver des conférences?
Oui, alors un peu de tout. Ça commencera donc mercredi soir à partir de 19h30 avec une table ronde qui parlera de la place du diététicien nutritionniste dans le sport de haut niveau. Ce sera en présence d'un diététicien nutritionniste, d'un préparateur physique, d'un préparateur mental. Ensuite, ça suivra le jeudi par une journée dédiée aux enfants et aux adolescents, donc avec des pyramides alimentaires, des documentaires autour de l'alimentation, apprendre à réaliser un petit déjeuner équilibré, par exemple, pour les enfants. Le soir, il y aura une masterclass, donc sur le thème pour une alimentation santé-plaisir, avec deux restaurateurs montpelliérains qui sont Green Lab et HBA1C. Le vendredi, il y aura une journée dédiée aux professionnels de la santé, du sport et de l'alimentation. Et pour terminer ce salon de la nutrition, ce sera la journée grand public qui aura lieu le samedi. Et alors là, on retrouvera beaucoup de stands et d'ateliers. notamment un escape game qui est un peu la grande nouveauté de cette année. Il y aura aussi une salle bien-être avec de la réflexologie, des massages, un petit coin restauration avec le restaurant Mazette de Montpellier. Et pour terminer, à 19h, un marché nocturne avec un petit concert de jazz. Et ce marché nocturne sera surtout avec des producteurs locaux de Montpellier.
À qui est-ce qu'il est adressé ce salon ? Est-ce que c'est plutôt aux adultes, plutôt aux adolescents, plutôt aux enfants, aux étudiants ?
Alors, on va dire que chacun sa journée. Le jeudi, c'est plutôt les enfants et les adolescents. Le vendredi, c'est plutôt les professionnels qui sont invités. Et le samedi, c'est ouvert au grand public.
Charlène Badinot et Pauline Sianfarani étaient toutes deux au micro de François Charbonnel de RCF Maglonero. La photo a fait le tour des réseaux sociaux il y a quelques semaines de cela. La star internationale du football Neymar, qui a évolué au sein du club parisien, affichant fièrement sa bague d'anniversaire en or et blanc et sertie de diamants. Alors, ce que l'on sait moins, c'est que l'entreprise qui a conçu ce bijou de luxe et qui a fait le tour du monde est une toute jeune entreprise basée dans l'Hérault à Gijan. Florian Delaunay et Anne-Laure Sabanel, tous deux âgés de 30 ans, ont créé cette joaillerie à Diddley à Seven il y a tout juste 2 ans. Ils conçoivent leurs bijoux sur leur ordinateur et à leur domicile de Montblanc, près de Pézenas, avant de sous-traiter leur fabrication d'un capital de départ de 1 500 €. Il y a 2 ans, la petite entreprise a fait son petit chemin et atteint aujourd'hui le chiffre d'affaires de 450 000 €. Grâce à un parrain en or, j'ai nommé l'ancien footballeur de l'équipe de France, Djibril Cissé. La bague de Neymar, c'est donc un coup de projecteur énorme au niveau international pour cette petite entreprise héraultaise qui monte et qui est de 3 salariés. Elle vise désormais l'export tout en restant attachée à la région, comme l'affirment Anne-Laure Sabadel et Florian Delaunay, tous les deux cofondateurs de cette entreprise.
Alors moi, je suis Montpellier-Rennes, donc Montblanc. On a voulu se rapprocher ici pour des raisons familiales, mais après, voilà, on est d'ici, on a envie de promouvoir vraiment notre région. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous.
C'est très important pour nous de promouvoir le Made in France avant tout, et surtout ouais. Aussi le Made in Hérault, le Made in local. On fabrique nos bijoux en France, donc nos bijoux ont cette étiquette Made in France. Mais à côté de ça, on travaille aussi avec des sociétés locales pour la fabrication de notre PLV, donc notre vitrine de support de bijoux, qui est fabriquée ici dans l'Hérault, à Béziers, par la société Blasius Création. Donc on est très très fiers de promouvoir et la France à l'export et la région à l'export.
Vous avez des ambitions ici à Montblanc ?
Oui, à moyen terme, à long terme, on a forcément des ambitions, notamment celle d'ouvrir un atelier de fabrication qui nous est propre et pourquoi pas faire de l'embauche à l'échelle locale.
Justement, j'allais vous parler de l'embauche. Vous espérez pouvoir employer à terme ?
Ah ben on espère, oui. On espère que notre société va grossir. Donc forcément, on espère pouvoir embaucher et exploiter tout ça.
À court terme, il n'y a pas d'embauche de prévu.
À court terme, non.
C'était Florian Delaunay et Anne-Laure Sabadel, habitants de Montblanc, près de Pézenas, et dans les rois et cofondateurs de l'entreprise de joaillerie qui a conçu cette bague pour Neymar. Merci à nos confrères de Radio Pays d'Hérault pour nous avoir proposé ce sujet cette semaine dans ce carnet de région. Et d'ailleurs, ce sujet marque la fin de ce tout nouveau carnet de région. Rendez-vous avec l'actualité chaque semaine en région Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Merci à toutes les radios qui ont pu se joindre à nos côtés cette semaine et nous proposer ces différents sujets. Merci aux autres quant à sa diffusion. Passez toutes et tous un très bon week-end. Prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau magazine régional. Ça s'appelle Le Carnet de Région.